L'effondrement, c'est pour notre génération. Nous allons le vivre, vous, moi.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de rentrer et de vous retrouver car oui, c'est la rentrée du Énervé. Un nouveau rendez-vous qui mute, qui change, bref, une nouvelle formule. C'est toujours en deux temps, c'est toujours une émission coup double. Dès 18h, le Énervé est disponible en podcast et puis de 22h à minuit, on passe à la radio, oui, comme tout le monde. Alors, quid du changement? Eh bien, chaque jour, on va ouvrir en débat. Je vous donne le programme des 13G7 d'ailleurs ce soir. Collapsologie, la fin du monde. Est-ce vraiment pour 2030? Et puis ce sera le Énervé la suite, France Inter Plus. Pour une semaine de dossier 100% France Inter, on va retrouver celles et ceux qui ont marqué l'antenne, les grands événements, les sujets qui font toujours l'actualité. Cette semaine, France Inter Plus de Toni Morrison, l'écrivaine prix Nobel qui nous a quittés cet été à 88 ans. Mais tout de suite, catastrophisme, décroissance, urgence climatique, crise mondiale, collapsologie, est-ce que la fin du monde, c'est vraiment pour 2030? On va en parler avec Christophe Bourseiller, qu'on a beaucoup entendu cet été et avec nos invités. Vous aviez, vous, un autre titre, Christophe, comme d'habitude?
Oui, comme d'habitude, moi je pensais urgence climatique, la fin du monde et après.
C'est pas mal, c'est un peu plus long.
Il y avait un côté gag. Oui. Bon, je sais pas si vous me suivez.
D'accord. Si, je vous suis. Okay. Nouveauté de la saison, on va finir cette première partie en musique, la programmation live sous la direction de Marion Guilbeault, qui a bouclé toute la semaine. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent. Et ce soir, on commence avec celle qui a fait craquer Damon Albarn, Andrea Bocelli, Iggy Pop et la playlist de France Inter. Pas de doute, la Britannique Alanis est la voix à suivre en cette rentrée. Elle sera en live avec ses musiciens dans un peu moins d'une heure.
Ouais, tout est installé. Parfait. Alors le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller, heureux de rentrer, vous qui n'êtes jamais parti?
Bah, c'est-à-dire que voilà, c'est une impression un peu, je me sens non pas frais mais défraîchi, contrairement à vous.
C'est vrai que c'était très estivalitude.
Très estivalitude cet
juillet,
été,
août. Bien sûr.
Ah bah, ça y est, mon carrosse est redevenu citrouille.
J'espère bien, oui.
Avec vous,
exactement.
Dans le Énervé, jusqu'au bout du combat, Laurent.
Alors, donc ce soir, pendant que l'Amazonie brûle et qu'elle se voit accorder 20 millions de dollars d'aide d'urgence, hein, c'est l'effet G7 qui se termine aujourd'hui, on ouvre la saison sur un mot terrible qui date de 2015, collapsologie, la théorie de l'effondrement. Alors, je vous propose d'abord de présenter nos invités. Ça vous va, Christophe?
Bah, on peut faire comme ça, oui, bien sûr. Oui.
Sarah Chiche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, psychanalyste, l'auteur des Enténébrés et vous êtes acquise aux théories de l'effondrement. À vos côtés, Christophe Rameau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, membre des Économistes Atterrés et vous défendez des positions écologistes en critiquant les positions extrémistes. Ça vous va comme présentation?
Oui, enfin,
on va développer.
En tout cas, contre les thèses sur la collapsologie.
Exactement. Geneviève Azam, vous êtes économiste, membre de l'association Attaque, et vous publiez dans quelques jours Lettre à la Terre, ça sera au Seuil. Vous étiez en Dail d'ailleurs pour le contre-sommet?
Absolument.
Ah, bah, j'étais sûr, on va en parler.
On en était sûr, hein, on en a parlé.
Ouais, au bureau. Mais, et face à vous, Laurent Alexandre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chirurgien, entrepreneur, fondateur du site Doctissimo, et vous dénoncez ce que vous appelez l'euthanasie écologique, c'est bien cela?
Entre autres, on va développer. Folie des collapsologues.
J'ai bien l'impression. Christophe, l'édito, vous l'avez trouvé?
Oui, j'ai eu du mal, j'avais perdu.
Mais c'est complètement perdu.
Mais non, je vais trouver Charles Laurent. Écoutez, Laurent, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'automne 1983?
Non.
Eh bien bon, écoutez, c'est dommage parce que je vous le donne en mille, c'était la fin du monde.
Ah mais oui, déjà, mais il y en a eu plein de fin du monde.
Gardez-vous en mémoire, Laurent, l'année 1999. Eh bien, c'était la fin du
monde,
monde
oui,
annoncée notamment par Paco Rabanne. Et plus récemment, si je vous dis 2012,
ah, mais c'était
ça
encore la fin
quelque
du
chose
monde,
hein. En vous. Oui, Laurent, nous avons vécu la fin du monde le 21 décembre 2012. Et en 2019, on nous prédit maintenant la fin du monde en 2030. Mais attention, nous dit-on, Laurent, c'est là où ça se corse. Cette fois, c'est la bonne. Alors évidemment, on disait la même chose en 1983, en 1999 ou encore en 2012. Il y a d'ailleurs un groupe qui prédit un bug informatique, je vous le signale, en 2038. Alors oui, sans doute...
Ça sera fini déjà.
C'est un autre débat, ça. Enfin oui, alors oui, sans doute, il y a une urgence climatique, indéniablement, mais l'urgence climatique semble aujourd'hui se mêler à l'affirmation quasi religieuse d'une fin des temps annoncée. La jeune Greta Thunberg. S'improvise en pitié de la fin des temps, tandis qu'un peu partout surgit un nouveau sigle écologique reste le sablier. Alors même que le ver Yves Cochet se calfeutre chez lui en entassant les sacs de sucre, nombreux sont ceux qui prédisent le jour du jugement dernier, 2030, terminus de l'humanité, pour la dérogation si vous voulez. Alors Sarah Chiche, la forêt amazonienne est en train de brûler. Alors, évidemment, elle est en train de brûler comme tous les ans, puisque ce sont des fermiers brésiliens qui allument les incendies. Mais doit-on voir dans cet incendie massif le symbole d'une planète condamnée, selon vous ?
Oh, écoutez, je ne suis ni climatologue, ni économiste, ni Paco Rabanne. Je suis écrivain et c'est depuis cette position-là, psychologue, que je vous répondrai. Les grands feux, dans les périodes estivales, ça n'est bien sûr pas la première fois que ça arrive. Ce qui se passe là, à mon sens, c'est qu'il y a une conjonction d'événements, hein, une urgence climatique liée, couplée à une violence sociale, couplée à un exode de plus en plus massif, de populations de plus en plus démunies qui, au péril de leur vie, quittent des pays dévastés justement par le réchauffement climatique. Tout cela s'affolant en un cercle de plus en plus vicieux et provoquant, ça je peux en témoigner comme psychologue, chez de plus en plus d'individus, des angoisses. Véritablement, les rêves de dévastation du monde, les angoisses liées à la fin des temps, ça c'est quelque chose qui préoccupe énormément de gens, très concrètement.
Geneviève Azam, vous, comment vous regardez justement ces feux en Amazonie qui ont été au centre du G7 ?
Alors bien sûr, on peut penser qu'il y a eu quelque chose de spectaculaire. Il n'en reste pas moins que même s'il y a toujours eu des feux pendant les saisons estivales, je pense que là, il y a une rupture dans cette situation-là. Ce n'est pas seulement l'Amazonie qui brûle, c'est la Sibérie qui brûle. L'an dernier, c'était des feux aussi dans des régions nordiques qui n'étaient pas du tout habituées, je pense à la Suède, à la Norvège, qui n'avaient jamais connu de tels incendies. C'est une île grecque qui a brûlé, c'est l'Australie qui brûle, c'est le Congo, c'est dans le Congo, aujourd'hui on en parle très peu, qu'il y a des incendies. Donc il y a quelque chose de l'ordre systémique, de l'ordre global. Ce n'est plus l'incendie qu'on avait de manière conjoncturelle tous les étés.
Oui, parce qu'en Amazonie, quand même, c'est une technique aussi d'agriculture, on le sait.
Bien sûr, c'est une technique d'agriculture. Cela veut dire aussi que ce n'est pas simplement de l'ordre climatique, c'est aussi de l'ordre politique, de la réglementation par rapport à la déforestation, bien entendu, en Sibérie également. En Sibérie, le temps qu'il a fallu pour qu'il y ait une intervention est absolument catastrophique. Il n'en reste pas moins qu'on sent bien à travers cela qu'il y a un dérèglement. Je pense à la Californie l'an dernier et nous avons assisté à des images incroyables de la Californie, c'est-à-dire des humains qui se sont construits comme humains en domestiquant le feu, c'est ça le symbole de notre humanité au départ, totalement démunis par rapport à la puissance du feu, et ceci à quelques kilomètres de la Silicon Valley, où s'inventent les technologies les plus sophistiquées qu'on puisse imaginer, et une incapacité à maîtriser ce qui arrive. C'est ça qui a changé. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des incendies, c'est la non-maîtrise.
Laurent Alexandre, comment vous avez compris la position d'Emmanuel Macron justement par rapport à ces feux qui en fait un instrument politique?
C'est une hystérisation du sujet.
C'est une hystérisation de la part d'Emmanuel Macron.
Avec des chiffres totalement faux. L'Amazonie n'a jamais produit 20% de l'oxygène sur Terre, parce qu'une forêt à l'équilibre produit autant d'oxygène qu'elle en détruit à cause de la destruction du bois mort. Je parle des forêts primitives comme la forêt humide du Brésil. Donc on est dans une phase d'hystérisation politique. Et de toute façon, on est tellement pessimiste qu'aujourd'hui, quand on essaie de rappeler un peu de raison et de dire qu'il y a eu plein de catastrophes avant, on n'est pas écouté. Car les gens n'entendent que le discours catastrophiste. On oublie qu'en 1710, la canicule et la sécheresse ont fait 700 000 morts en France sous Louis XIV. Il y avait 24 millions d'habitants à l'époque. 700 000 morts. La famine sous Louis XIV a fait 2,5 millions de morts. En plus de cet épisode-là. En France, la forêt des Landes a perdu 200 000 hectares en quelques jours en 1949. Des incendies catastrophiques, on en a déjà eu énormément, sauf qu'on ne le rattachait pas à la fin du monde. Le fait nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un discours englobant, qui est un discours décroissantiste, catastrophique, apocalyptique. Tout va mal, on va mourir, etc. On se demande bien pourquoi l'espérance de vie en Afrique a doublé sur les 60 dernières années, si tout va mal. On se demande pourquoi l'espérance de vie est passée de 27 ans sous Louis XIV en France à 82 ans aujourd'hui. On ne voit que ce qui va mal. Un discours totalement catastrophiste, on ne voit pas ce qui va mieux. L'espérance de vie et la malnutrition se sont considérablement améliorées en Asie et en Afrique. Personne n'en parle, on ne parle que de ce qui va mal. On pourrait prendre d'autres exemples. Si vous prenez la pollution de l'air à Paris, elle est bien moindre aujourd'hui qu'elle était en 1955. C'est d'ailleurs pour ça que les immeubles parisiens ne sont plus noirs, alors qu'ils étaient totalement noirs à cause de la fumée du charbon. Et un dernier chiffre, le smog à Londres, en 72 heures, a fait 13 000 morts en 1950, au début des années 50. 13 000 morts en 72 heures. Aujourd'hui, avec l'interdiction du chauffage au charbon à Londres, il n'y a plus de smog.
Geneviève Azam, qu'est-ce que vous répondez à cette avalanche de chiffres?
Et Christophe Rameau,
oui. Geneviève Azam,
en tout cas, pour ce qui est de l'espérance de vie, c'est la première fois que nous voyons l'espérance de vie, en tout cas pour les personnes en bonne santé, diminuer dans les pays riches. Aux
Elle
États-Unis,
a tellement augmenté.
Aux États-Unis, en Russie. Alors, il est vrai qu'il y a des zones dans lesquelles l'espérance de vie a augmenté, mais il y a aussi une diminution de l'espérance de vie.
À l'échelle mondiale, elle ne cesse d'augmenter.
Bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que si, quand nous parlons des feux qu'il y a actuellement en Sibérie, il ne faut pas oublier, en Amazonie, nous ne prédisons pas la fin du monde, nous faisons un état des lieux. Il ne s'agit pas de catastrophisme.
Il y en a moins qu'en 2007 en Amazonie.
Il s'agit de catastrophes absolument réelles.
Il y a moins de feux.
Et ce ne sont
2007.
Pas simplement des forêts, vous donnez des chiffres sur l'Amazonie. Ce ne sont pas simplement des forêts. Ce sont des personnes qui habitent l'Amazonie. Ce sont des peuples qui habitent l'Amazonie, qui entretiennent l'Amazonie, qui vivent à partir de l'Amazonie. Et non seulement l'Amazonie est le poumon. Bien sûr qu'elle est le poumon. Elle est un des poumons, bien sûr, oui. Elle est un des poumons de la Terre.
C'est scientifiquement
mais elle
faux.
N'est pas seulement ce poumon de la Terre. Elle est aussi un lieu habité. Et ce sont toutes ces cultures qui sont aujourd'hui en péril. Tout ceci pourquoi ? Pour permettre la déforestation, pour augmenter, toujours augmenter, et ce n'est pas un propos décroissant là, pour toujours augmenter la production, notamment d'élevage, et donc la production de viande qu'on va pouvoir exporter en Europe grâce au Mercosur. Donc voilà à
même
peu s'il près
est absolument remis en question aujourd'hui.
Oui, alors on va suivre très attentivement. Emmanuel Macron a effectivement annoncé qu'il se déclarait contre le Mercosur. Le Mercosur est négocié de manière très secrète depuis très longtemps. Il y a, au mois de juillet, Monsieur Macron soutenait le Mercosur. On va voir ce qu'il va en être maintenant.
Alors, Christophe Rameau, l'astrophysicien Aurélien Barreau, qui est lui quelqu'un qui défend des positions collapsologiques, si je puis dire, en tout cas de théorie de l'effondrement, dit qu'il faut aujourd'hui faire la guerre à la fin du monde. Est-ce que vous partagez cette vision? Vous pensez qu'il y a une urgence climatique?
D'abord, tout dépend comment on écrit le mot « fin ».
Là, c'est FIN, là.
Oui, j'ai bien compris, mais entre 1960 et aujourd'hui, à l'échelle du monde, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. On est passé de 3 milliards à 7,5 milliards d'habitants. En 1960, pour revenir à la faim, FIM, il y avait un tiers des habitants de la planète qui souffraient de faim.
Je vois que Laurent Alexandre est d'accord avec vous.
Aujourd'hui, on en est à un 12e. Alors, pour m'éloigner peut-être de Laurent Alexandre, je considère que l'écologie, c'est quelque chose de très important. C'est la nouvelle frontière. C'est la nouvelle frontière, y compris du 21e siècle. La question qui se pose, c'est comment on aborde l'écologie.
Comment on en parle?
Comment on en parle? Comment on l'aborde? Comment on le traite politiquement? Et là, je pense que le discours des collapsologues est une impasse absolument effroyable. Absolument effroyable parce que il ravale le politique sur un mode religieux. Quand vous entendez un ancien ministre de l'Environnement oser prétendre, il n'y a aucun démographe, aucun climatologue
qui dit ça. Vous parlez d'Yves Cochet, c'est ça?
Yves Cochet.
On va l'entendre dans quelques
instants. Qui déclare que, à l'horizon de 2040, la moitié de l'humanité aura disparu. Mais c'est aberrant. Mais c'est pas nouveau.
Il n'y aura plus que 300 millions de survivants.
Il y a eu, vous savez, il y avait, comment il s'appelle, Paul Ehrlich, en 1968, qui publie dans la fameuse bombe P, publiée malencontreusement par les Amis de la Terre. Ça s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Et il prévoyait, sur le mode des collapsologues, dans les années 70-80, il y aura des famines effroyables, etc. Rien ne s'est passé ainsi. Donc je pense que si on va affronter sérieusement la question écologique, il faut sortir d'un âge de l'adolescence sur ce débat-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, évoquer sérieusement la question de la croissance. L'Afrique, aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que par point de PIB, elle émet 4 fois plus de CO2 que les pays européens. Tout simplement parce que il faut assurer du développement. Qu'est-ce que nous dit le GIEC?
Le GIEC nous dit,
qu'est-ce que nous dit le GIEC? Qu'est-ce que nous dit le GIEC? Il y a 4 facteurs qui pèsent sur le réchauffement climatique. Il y a premièrement la population. Et la population, on a une dernière bombe démographique, c'est la dernière, qui est en Afrique, qui a priori devrait se résorber à la fin du 21e siècle. C'est la croissance. Et là, le GIEC dit très clairement que c'est pas sur ce levier-là qu'il faut agir, et je reviendrai sur pourquoi après. Il y a un troisième facteur qui est le contenu en énergie de la croissance. Et puis le quatrième facteur, et donc c'est là-dessus qu'il invite à agir d'abord, et ensuite, donc il faut moins consommer d'énergie, et ensuite, c'est le reste d'énergie qu'on devra malgré tout consommer, il faut qu'elle soit moins carbonée, donc ça suppose de passer à une énergie électrique. Le GIEC ne se prononce pas pour la baisse de la croissance, soit une échelle infinitésimale. Pourquoi ? Parce que la croissance, c'est du pouvoir d'achat, c'est du développement pour les pays du Sud, et parce que l'écologie, elle demande de la croissance. L'écologie, c'est quoi ? Il faut, notamment par exemple en France, la rénovation thermique des bâtiments, c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Les énergies non carbonées, c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Passer à une agriculture moins industrielle, c'est de l'emploi, c'est de la croissance, parce que c'est peu connu. Quand on passe d'un kilo de carottes industrielles à un kilo de carottes bio, ça augmente le PIB. Et dernier point, il faut, pour l'énergie qu'on devra malgré tout utiliser, il faut passer une énergie électrique. Et là, il y a un discours écologiste de certains écologistes, car moi je me considère comme un économiste écologiste, qui est proprement irresponsable, qui porte sur le nucléaire. L'Allemagne nous a fait la démonstration en grandeur nature. Quand on veut se passer du nucléaire, eh bien, si on n'utilise que l'éolien ou le photovoltaïque, il n'y a pas le choix. On est obligé d'avoir un complément. Tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité à l'échelle industrielle, et aujourd'hui on ne sait pas, c'est soit le charbon, soit le gaz. C'est-à-dire que c'est une catastrophe pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut un discours radical, c'est-à-dire responsable, sérieux, rationnel, et qui ne joue pas sur les peurs, sur l'irrationnel. Et puis, je termine sur un point, si vous me permettez. J'ai lu avec attention, j'ai lu avec attention les ouvrages de Paul Servigne et Raphaël, collapsologue, d'accord. Mais ils nous disent en tant que tel, aujourd'hui, l'avenir, parce qu'ils nous disent, vous voyez ce que je veux dire, à la fois, c'est la fin du monde, puis à la fois, il faut le vivre de façon heureuse. Et donc, c'est quoi leur projet? Il faut faire des petites communautés, entre tant de 150 personnes, rassemblées sur un socle sacré. Geneviève Vazan, vous dites non, excusez-moi, j'ai l'ouvrage dans la poche, donc je peux vous citer la page. Geneviève Vazan, excusez-moi.
Alors, juste, puisque vous êtes en train presque de le citer, je voudrais vous faire écouter les déclarations d'Yves Cochet sur France Info cet été. Yves Cochet, je le rappelle, ex du député européen des Verts, aujourd'hui calfeutré dans sa maison en Bretagne, au nord de Rennes, pour se préparer à l'effondrement du monde.
7 hectares,
et il est bien conscient que d'aucuns s'interrogent sur sa santé mentale.
Les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, hein, comme disait Lénine. Mais non, c'est déjà du concret. Avec ma fille, nous avons acheté cette maison, voilà, une trentaine d'années, parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, hein, je ne suis pas à 5 ans près. En tout, ça fait 7 hectares. Il y a 3 hectares de bois et 4 hectares de prés, disons. C'est important d'avoir de l'eau vraiment toujours disponible si jamais l'eau courante, disons, distribuée par la ville ne l'était plus. Il faut bouillir.
Il faut faire bouillir l'eau.
Ah bah oui.
Attendez, Christophe Rabault. Sarah Chiche, et ensuite j'ai vu que tout le monde voulait réagir aux propos d'Yves Cochet.
Trois points. Alors le premier, comme beaucoup de gens, je m'interroge sur le virage écologiste d'Emmanuel Macron, sincère ou électoraliste, je n'en sais rien. Toujours est-il que ce que je crains, c'est que d'une part, il y ait ceux qui aient les moyens de soutenir la cause écologiste et ceux, les déclassés, les plus faibles, les plus démunis, pour qui chaque jour est une question de survie. Et j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer cet automne, mais est-ce que parallèlement à ce virage écologiste, on va pas assister à un durcissement de la politique sociale, hein, qui ferait naître à nouveau des flambées telles que nous avons pu les connaître. La deuxième chose, pour déplacer le problème, c'est que, collapsologie ou pas, en tout cas, quels intérêts ça sert? C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des gens comme Donald Trump, comme Bolsonaro, qui ont tout intérêt à ce que ce climat de dévastation généralisée se produise. C'est-à-dire que foutu pour foutu, autant jouir jusqu'au bout d'opprimer les plus faibles, les plus démunis, les plus défavorisés. C'est comme les frères Koch, ces multimilliardaires américains qui auraient tout à fait les moyens de s'arrêter de travailler. Et qu'est-ce qu'ils continuent à faire? Ils continuent à foutre l'environnement en l'air, ils continuent à forer des oléoducs, ils continuent à détruire la planète. Et j'en viens donc au troisième point, face à ces inégalités croissantes, face à ce climat de dévastation généralisée, moi je m'intéresse tout à fait à des mouvements comme Extinction-Rébellion, mm-hmm. par exemple, ou L214.
Désobéissance civile.
Voilà, qui font appel à la désobéissance civile, c'est-à-dire le refus assumé et public de se soumettre à une loi qu'on considère comme inique. C'est ce qu'a fait Extinction-Rébellion, par exemple, il y a quelques jours à Bordeaux, en empêchant la venue d'un paquebot de croisière.
Geneviève Azam.
Oui, je voudrais revenir sur l'écologie comme étant une nouvelle frontière. Je ne la définirai pas comme ça. Pour moi, l'écologie, ce n'est pas une nouvelle frontière à conquérir. C'est une limite. Et il est évident que pour les économistes, la plupart des économistes, ils considèrent aujourd'hui l'écologie comme une frontière, comme encore une nouvelle possibilité d'expansion. Ça s'appelle le capitalisme vert, ça s'appelle la croissance verte. C'est la notion de la frontière qui vient des années 60, qui vient aussi du grand moment des économies keynésiennes qui ont eu leur grandeur. Mais on ne peut plus penser le monde en 2019 comme nous le pensions dans les années 30 ou bien après 1945. Les économistes n'ont pas tenu compte dans leur modèle des données géophysiques, matérielles de la Terre, qui sont des véritables limites. Donc l'écologie n'est pas une frontière. L'écologie, ce sont des limites. Et notre propre liberté, c'est de comment penser l'émancipation, la liberté, la justice à l'intérieur de ces limites. Ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéconomie, ce n'est pas du tout de faire entrer la nature, le capital naturel, comme disent les économistes, dans le grand cycle du capital, c'est de dire que l'économie est un sous-système d'un système qui la dépasse. Et c'est ça l'origine de la bioéconomie. Et que donc, l'économie, ce sont des échanges d'énergie et de matière. Et qu'aujourd'hui, il y a des limites. Non seulement des limites naturelles, mais des limites qui ont été fabriquées aussi par deux siècles d'exploitation industrielle, sans aucune vergogne, sans aucune limite, justement.
My life.
Le son de Pixies et Frank Black, toujours là avec un nouvel album prévu pour le 13 septembre et des concerts en France avec l'Olympia à Paris le 19 octobre prochain. La programmation est signée Jean-Baptiste Audibert.
Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation.
Le nouveau rendez-vous.
Je trouve que le discours d'abord est un peu puéril.
I want you to panic.
Je veux que vous paniquiez.
C'est une escroquerie intellectuelle.
I want you to feel the fear I feel.
Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours.
Non mais écoutez, c'est Leonarda sur tapis rouge.
En fait, elle a été lancée comme on lance une chanteuse de disco.
Laurent Goumard.
Et malheureusement, Greta Thunberg est passée de lanceuse d'alerte à donneuse de leçons.
Sur France Inter.
Greta Thunberg dans le texte, au centre de toutes les polémiques, pour ouvrir la deuxième partie de ce débat consacré ce soir à l'urgence climatique et à l'annonce de la fin du monde par les collapsologues. C'est le sujet du Énervé avec Sarah Chiche, Geneviève Azam, Christophe Rameau et Laurent Alexandre. Quelqu'un a rencontré ici Greta Thunberg ? Geneviève Azam, vous l'avez rencontrée ?
Non, je ne l'ai jamais rencontrée.
Vous auriez voulu ?
Oui, j'aurais voulu la rencontrer parce que je crois qu'il faut alléger un petit peu le poids qu'elle porte. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut un peu arrêter d'en faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais ce que je constate, c'est que dans les mouvements des jeunes pour le climat, elle a eu un rôle dans la prise de conscience de beaucoup de ces jeunes-là qui vont de nouveau être en grève au niveau mondial le 20 septembre. Je pense qu'elle a eu un rôle extrêmement important. Alors ensuite, elle a un poids absolument énorme. Il y a une tendance à la personnalisation et je trouve certains propos à son égard extrêmement terrible parce qu'elle est caricaturée.
Quand on dit c'est un cyborg, à partir du moment où elle a été exposée et elle est mineure, donc c'est avec l'assentiment de ses parents, effectivement, ils lui font prendre un risque important, surtout qu'on sait qu'elle a un passé psychiatrique lourd, hein, puisque sa mère, de façon totalement dégueulasse, a révélé qu'elle avait des troubles alimentaires, c'est pour ça qu'elle est toute petite et qu'elle a des problèmes de règles, manifestement, qu'elle avait des tocs, c'est sa mère qui l'a mis dans son bouquin, hein, qu'elle a fait une dépression infantile grave. À partir du moment où sa mère révèle son dossier médical dans un bouquin pour vendre son bouquin, au vu et au su de tout le monde, elle fait prendre un risque à cette gamine. Moi, ma fille de cet âge-là, je ne l'exposerai pas comme ça et je ne laisserai pas s'exposer, surtout si elle avait le passé psychiatrique qu'a Greta Thunberg. Donc cet enfant devrait être protégé. Je pense que c'est très mal qu'une adolescente fragile devienne une rockstar. On lui fait prendre des risques. Les rockstars enfants finissent pas toujours très bien sur le plan psychologique et psychiatrique. Je pense que les parents la surexposent. Cette gamine devrait se reposer, vu son passé. Elle devrait aller à l'école et avoir une vie plus normale. Donc oui, ses parents, ce qu'ils font, ça n'est pas très bien.
Sarah Chiche, ça vous gêne un peu cette
vous qui êtes psychanalyste,
écoutez,
psychologue,
le fait d'utiliser une très jeune fille.
Moi non
c'est
plus.
C'est sa mère
donc,
qui a sorti le dosier psychiatrique.
Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Greta Thunberg, qui a revendiqué le fait qu'elle était autiste Asperger,
on parle de l'Asperger.
Ça va avec une mouvance qui s'appelle la neurodiversité. La neurodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est considérer que son handicap, ses particularités psychiques ou neurologiques ne sont plus un déficit, mais un style de vie à part entière. Par exemple, on peut être Asperger, comme on peut être diabétique ou ne pas aimer les épinards. Et ça, c'est une mouvance qui vient des États-Unis. Oui, j'entends bien
on parle de la dépression, des tocs, qui sont des vraies maladies.
Et alors, si cette jeune fille qui était au bord de mourir, si cette jeune fille, on parlait d'effondrement, là c'est un effondrement intime, si elle a trouvé à se reconstruire, à se réhabiliter de cette façon-là, moi je trouve que c'est une façon tout à fait respectable. Alors on peut bien sûr questionner ses soutiens, on peut s'interroger sur la violence de cette exposition et son impact. Reste en tout cas que l'impact sur les jeunes, je trouve ça tout de même tout à fait positif dans la mesure où ça les aide à ne pas trop déprimer. Oui, autant faire quelque chose. C'est-à-dire que ces grèves, quand ils vont pas à l'école, c'est pas de la paresse, hein.
Oui,
c'est
mais la mise en avant d'un personnage comme ça, on n'est pas dans une structure démocratique.
On est dans
la mise en avant médiatique d'un personnage. C'est un peu spécial.
Ça, je suis d'accord. Mais, je crois que les lumières de la raison et du progrès, ça fait bien longtemps qu'elles sont éteintes et que dans ces temps de clair-obscur, eh bien, émergent d'une part des monstres, Bolsonaro, Trump, mais émergent aussi des figures archétypiques qui ressemblent. Greta Thunberg, quand je la vois, me fait penser à un personnage de la série The Leftovers. Hein, ce sont des figures d'identification extrêmement fortes que certains vont aimer et suivre massivement et que d'autres, on l'a vu, vont détester, en tout cas qui ne laissent pas indifférents.
Christophe Rameau, vous êtes de quel côté, vous, l'économiste à terre?
Pour rebondir sur ce que vient de dire Sarah Chiche à la fin de son intervention, Elle a évoqué le fait que le temps des Lumières et de la raison était passé. C'est terrible de dire ça.
J'espère
c'est
que non.
C'est une vraie régression. Voilà la vraie régression. On est en plein dedans. Hein, c'est-à-dire que moi, je travaille sur la question de l'état social. Je vais faire le lien avec l'écologie. Au cours des deux derniers siècles, on a connu deux grandes révolutions. La démocratie. C'est-à-dire que justement, les Lumières, la démocratie, l'idée que sur cette base-là, sur la base du dialogue politique entre les êtres humains, avec des règles, eh bien, on va pouvoir régenter nos sociétés. On est sorti des sociétés de religion. C'est pas dire qu'on a abandonné, pour ceux qui le souhaitent, la religion, mais on est sorti des sociétés de religion. Très bien. Et puis, la deuxième révolution, c'est une révolution, c'est l'État social, c'est l'État-providence. Et dans les deux cas, on rompt avec le libéralisme. C'est-à-dire que j'ai un auteur que j'aime beaucoup ici, qui est Marcel Gauchet, pour penser le temps présent, qui est un auteur très radical, à mon goût. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, si vous voulez, ce qui est au cœur du libéralisme tant politique qu'économique, c'est l'idée que le tout est réductible au jeu des partis. D'accord ? Que le jeu des intérêts individuels, particuliers, conduit à l'intérêt général. Eh bien, la démocratie au sens fort, républicaine, elle vous dit non. Elle vous dit, les êtres humains s'assemblent, délibèrent, il y a un volet libéral, bien entendu, dans la démocratie. Mais, sur cette base-là, on vote la loi. Et la loi s'applique à tous. D'accord ? Il n'y a pas d'exil fiscal en Belgique ou ailleurs, suivez mon regard, etc. D'accord ? Et donc, elle doit s'appliquer à tous. Et l'État social, c'est l'idée que, il y a l'idée que l'initiative privée a du bon, mais il y a besoin d'intervention publique, et on en arrive à l'écologie. L'écologie, en fait, elle doit compléter ces deux premières révolutions. C'est pour ça que c'est très important. L'écologie, elle invite à placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'initiative privée. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour l'écologie ? On sait ce qu'il faut faire. Il faut faire des plans d'investissement massifs. C'est d'abord de ça dont on a besoin.
Et là, on a plutôt l'impression d'une écologie un peu, entre guillemets, pardon, punitive. Oui, c'est-à-dire, on nous dit, ne prenez pas l'avion, ne mangez pas de viande, ne faites pas ci, ne faites pas ça. On est plus de ce côté-là que dans une démarche constructive.
Ça, c'est le discours des collapsologues. C'est le discours des collapsologues.
Pas que des collapsologues.
Mais qui débouche rapidement sur un discours de gourou, si vous voulez. Dans ces temps, pendant deux siècles, on a vécu sur l'opposition. Il y a ceux qui croyaient au socialisme communiste, il y a ceux qui n'y croyaient pas. C'est terminé depuis 1989, si vous voyez ce que je veux dire. Ben maintenant, dans ces temps un peu où il y a les gourous qui apparaissent. Alors il y a les gourous collapsologues, il y a les gourous sur l'intelligence artificielle qui vous disent qu'avec l'intelligence artificielle, tout va changer, etc. Enfin, c'est un nouveau monde, il n'y aura plus d'emplois.
Vous savez, vous avez changé de voix. On s'en aurait bien cyborg.
Comment ?
Vous avez changé de voix à ce moment-là.
Il y a ces gourous, voilà. Hein. Alors d'ailleurs, qui se complètent, hein, les deux ont une certaine fascination pour la science-fiction, hein, comme par hasard, qui peut être par ailleurs tout à fait estimable d'un point de vue littéraire. Mais il faut pas mélanger les choses. Bon, et donc, je reviens sur ce qu'il faut faire en termes écologiques. On sait ce qu'il faut faire. Des plans d'investissement massifs.
Hein,
et ça suppose, et c'est pas du capitalisme vert, chère Geneviève Azam, d'accord ? Ça suppose de l'intervention publique. Parce que ce qui est grave avec les collapsologues...
Dans quel domaine, vous demande Geneviève Azam ?
Donc, elle a besoin. Bah, rénovation thermique des bâtiments. Il en faudrait 1 million par an en France. On est à moins de 300 000. D'accord ? Et le gouvernement, vient de réduire. Oui. Ouais. Développement des transports collectifs. Ça suppose des plans d'investissement massifs, des emplois, de la croissance verte. Il faut nommer les choses par leur nom. D'accord ? L'agriculture, je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand on passe d'une agriculture industrielle à une agriculture raisonnée, vraiment raisonnée ou biologique, ça augmente le PIB. D'accord ? Il faut pas jouer l'autruche. Et donc, la santé, l'éducation. Pourquoi ? Quand même, on part pas de rien quand même. Arrêtons d'assombrir, semble le tableau qui est déjà suffisamment sombre. Donc, depuis 1990,
être lucide.
Non, mais laissez-moi sur un point. Depuis 1990, l'intensité en GES du PIB à l'échelle mondiale a baissé d'un tiers. C'est-à-dire que le découplage relatif, écoutez, je cite les, d'accord?
Bon,
je cite
les chiffres. Hein.
Donc là, on va pas discuter sur
le découplage.
Et donc, mais ce qu'il faut, c'est le découplage absolu. La France y arrive parfois. Alors on y arrive, ces toutes dernières années, on y arrive. C'est-à-dire, non seulement on a un peu de croissance qu'il faut rendre plus verte, l'éducation, la santé, on est pour. Tout ça, c'est de la croissance. Et donc, mais il faut faire ça à l'échelle mondiale. Donc, ça suppose des investissements massifs.
Geneviève Azam.
Alors, sur le découplage, je pense que là, vraiment, tous les chiffres aujourd'hui nous montrent qu'il n'y a pas de découplage absolu. Il y a un découplage relatif.
En France, la France a baissé son empreinte carbone.
Mais je voudrais dire qu'en France, les émissions de gaz à effet de serre depuis 3 ans réaugmentent. Cette année, ce sera plus 3% d'émissions de gaz à effet de serre, alors que l'engagement était de les diminuer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Oui, il faut de l'investissement. Bien sûr qu'il faut de l'investissement. Dans le nucléaire, il faut du désinvestissement aussi. Il faut désinvestir dans certains domaines.
Nucléaire, tout de suite ?
Désinvestir, tout de suite ? Bien, pas tout de suite. Ah. Il faut enclencher un processus de désinvestissement. Oui. Il faut désinvestir dans les fossiles. Ou alors vous
On est d'accord sur les fossiles. Mais sur le nucléaire.
Ça s'appelle sur le nucléaire.
L'Allemagne
aussi.
Est un contre-exemple effroyable, quand même. On est d'accord ou pas ? Geneviève Azam, répondez-moi
pour
clairement.
Moi, l'Allemagne n'est pas un contre-exemple.
Maintenant, sur le charbon ?
Non. Il n'est pas un contre-exemple dans l'abandon du nucléaire. Heureusement, c'est un exemple pour moi dans le processus d'abandon du nucléaire. Je pense que nous devons aller vers l'abandon progressif.
Vous confondez deux choses. Non. Le combat contre le nucléaire et le combat contre le CO2.
Je voudrais dire
l'Allemagne,
que le GIEC,
c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Elle produit 9 fois plus de CO2 par unité d'énergie électrique que la France.
Tout à l'heure, Christophe Rameau s'est inquiété sur la question des lumières. Le problème aujourd'hui, la critique des lumières, elle n'est pas faite de l'extérieur. C'est qu'aujourd'hui, les lumières se sont construites sur la toute-puissance humaine, sur la capacité de la maîtrise par la raison. Or, aujourd'hui, du fait de nos actions, nous avons perdu la maîtrise. Nous ne maîtrisons pas ce que nous entreprenons. Nous ne maîtrisons plus les événements qui arrivent. Et si on se réfère au GIEC, comme vous le faisiez tout à l'heure, le GIEC nous dit « nous avons 10 ans pour agir ». 10 ans pour agir.
Dis pas que ça,
c'est ce qu'il dit, le GIEC.
Donc on arrivera à 2030. L'effondrement n'est pas inéluctable.
Laurent Alexandre.
Oui, moi je suis... Alors, ça va... étonné monsieur Rameau, mais je me sens proche à 99% de ce qu'il a dit.
Pas sur le libéralisme économique, les justices fiscales,
etc. On est à deux, trois bricoles, mais on a le droit de faire des petites piques aussi. Je me sens très proche de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'effectivement, le courant décroissantiste malthusien, je le considère comme très très dangereux d'un point de vue social. J'ai fait un papier dans l'Express non à l'euthanasie écologique, m'insurgeant du fait que Jean Bocovici dans Social Alter ait dit que la manière la plus simple pour nous, c'est de diminuer la population et donc de diminuer les soins pour les personnes âgées très malades. Si l'écologie, c'est d'euthanasier nos vieux en les soignant pas quand ils sont très malades, je dis non. On ne peut pas rentrer dans une logique de la décroissance où on va euthanasier nos vieux, on va pas payer la chimiothérapie des enfants leucémiques au nom de la décroissance. Excusez-moi, la chimiothérapie, les dernières chimiothérapies dans la leucémie de l'enfant, ça vaut 500 000 euros. Eh ben, c'est pas dans un monde décroissant avec un PIB au tiers de ce qu'il est aujourd'hui qu'on va soigner les leucémies des gamins pauvres. Si on est dans une décroissance, on sera dans une régression totale et absolue. Et je partage tout à fait ce qu'a dit monsieur Rameau. Il ne faut pas se tromper. La décroissance est une baisse du pouvoir d'achat des classes populaires. Ça aurait des conséquences terribles. Ce qu'il nous faut, c'est effectivement découpler la consommation énergétique et le CO2 qu'on produit par unité de richesse, ce que la France fait pas mal, puisqu'il faut quand même rappeler que la France est le pays au monde qui produit le moins de CO2 par unité de richesse. Le pays au monde donc la France est relativement exemplaire d'un point de vue énergétique. Il faut aller plus loin. Et je suis d'accord avec monsieur Rameau. Faut moins d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Il faut davantage. Il faut davantage isoler les maisons.
Ça, oui.
Et il faut davantage développer les transports collectifs. Mais le discours décroissantiste, c'est un discours qui nous conduit à une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien quand les gilets jaunes font moins 1% de pouvoir d'achat, dans quel état ils sont. Si demain ils font moins 30, moins 40, moins 50% dans un scénario à la Cochet ou à la Vargas, on aura effectivement une crise sociale absolument majeure.
Alors on a bien compris que pour porter une cause, il faut porter sa voix. Johann Papakonstinou l'a bien compris. Pourquoi tu cries ? C'est sur France Inter.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Pourquoi chérie tu cries? Pourquoi ma chérie tu cries? Pourquoi chérie tu cries? Hier comme aujourd'hui, que tu gardes un mousquisis, relis d'amour tolé. Toi que je regardais pour moi, après que j'ai vu pour toi, toi tu m'as dit ça. Tu es en love mon bébé, mais là je vais voir ailleurs. imaginé qu'on aurait pu se retrouver, mais on s'est perdu. Je voulais pas tester sur ça. C'est un jeu que je comprends pas. Nous deux c'était bien au début. On est parti quand l'autre est revenu. Je voulais t'appeler, t'étais pas là, s'il te plaît, arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu se trouver, mais on s'est perdu. Je voulais t'appeler, t'étais pas là, s'il te plaît, arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu avancer, mais on s'est perdu. Tu pleures, pourquoi mon cœur tu pleures, pourquoi mon cœur tu pleures, ça ira mieux ta l'heure. Que va les divagas pour ça, les gamins que m'y plaît. Tu croyais que je m'en foutais, toi que je regardais pour moi. Après que j'ai vu pour toi, toi tu m'as dit ça. Tu es mon love, mon bébé, mais là je vais voir ailleurs.
Le Rebetiko très autotuné de Johann Papakonstantino, oui, un extrait de son premier album Contre-jour. La programmation, je vous l'accorde, hein, presque grec de Jean-Baptiste Audibert.
Ah,
oui, c'était grec. Urgence climatique, catastrophisme, éveil des consciences au programme de cette troisième partie. Alors que faire? Quelles sont les solutions si tout est déjà foutu? On en parle avec nos invités. Ils sont quatre. Sarah Chiche, écrivaine, psychanalyste. Christophe Rameau, économiste atterré. Laurent Alexandre, chef d'entreprise, chroniqueur, essayiste. Et Geneviève Azam de l'association Attaque. Vous avez parlé des solutions pendant le contre-sommet de Hendaye ce week-end?
Oui, le contre-sommet était en grande partie consacrée aux solutions sur les questions du commerce, des transports, etc.
Ça veut dire plus d'avions, des croissances?
Oui, ça veut dire en tout cas une réduction.
Dans votre livre, vous parlez d'une solution. Vous dites, nous n'y sommes pas encore, le chemin sera long, jusqu'à l'introduction du crime d'écocide. Vous voulez lancer le crime d'écocide?
Absolument. Bon, ça ce n'est pas moi seulement, ce sont des juristes qui travaillent aujourd'hui sur la reconnaissance d'un crime contre l'humanité, pas seulement. Après la Seconde Guerre mondiale, on a reconnu le crime contre l'humanité. Là, c'est un crime d'écocide qui aujourd'hui est discuté au sein des Nations Unies. Et donc, il y a une demande d'un élargissement de la compétence de la Cour pénale internationale pour que puissent être jugés des crimes qui sont des crimes écologiques, dont nous sommes responsables, dont nous connaissons les responsables. Le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui est concret. Il y a aussi des responsables qui doivent être absolument désignés. Donc, aujourd'hui, quand on entend les discours de M. Bolsonaro, il est responsable, il devrait un jour passer effectivement devant un tribunal international pour crime d'écocide.
Quelles sont les autres solutions que vous avez évoquées ce week-end alors à Hendaye?
Il y a beaucoup de solutions. Parmi les solutions, il y a des logiques de relocalisation des sociétés pour justement éviter les transports. Il ne s'agit pas de dire l'avion interdit. Il s'agit de concevoir autrement l'organisation de la société, l'organisation de l'économie de manière à relocaliser les activités pour limiter les transports, aussi bien terrestres que aériens. Donc, il ne s'agit pas d'une écologie qui est punitive, comme vous le dites, mais bien d'une écologie qui se saisit de ce qui existe et qui montre, et ce que montre aussi beaucoup de personnes qui aujourd'hui parlent d'effondrement, qui désirent affronter le réel plutôt que nier le réel pour se donner des puissances d'agir. Ce n'est pas par le déni qu'on peut trouver des puissances d'agir. C'est agir sur les fossiles, sur l'énergie. Il y a énormément d'expériences, au Pays Basque en particulier, dans l'agriculture, dans l'énergie, des monnaies locales par exemple, comme outil de relocalisation des sociétés et des économies. C'est tout cela qui a été décidé, qui a été discuté dans le contre-sommet du G7.
Ça a chiche.
Oui, en nous écoutant depuis tout à l'heure, je pense à une phrase de Bichat qui dit « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». Et donc, on fait tous preuve de vitalité, même si on n'est pas tous d'accord sur ces questions-là. Moi, je me suis posé beaucoup la question en tant qu'écrivain, qu'est-ce que je peux faire face à l'Amazonie qui brûle? On a vu sur Internet circuler tout un tas de pétitions, mais il faut pas se leurrer, signer une pétition pour que les feux s'arrêtent. Non, concrètement, on ne peut rien faire.
Ça n'éteindra jamais, oui.
Ça n'éteindra jamais le feu. Alors, ça peut temporairement éteindre la rage, le désespoir, désespoir, par le sentiment, l'illusion de contribuer à quelque chose, de faire quelque chose de bien plutôt que rien. Mais enfin, néanmoins, il y a des leviers d'action concrets. Alors, par exemple, oui, le boycott de l'exportation de la viande brésilienne, ça peut être une réalité. Nous-mêmes, arrêter de manger trop de viande ou arrêter de manger de la viande, ça peut être une réalité. Alors, je dis ça, je suis pas un modèle de vertu. Par exemple, je souffre d'anémie, je manque de fer, et ben, du coup, parfois, je suis encore paresseuse. Quand je suis pas bien,
toujours des restrictions quand même, hein, dans tout ce que vous dites.
Quand je suis patraque, et ben, je continue à me faire de la viande plutôt que de me faire un plat de lentilles. Mais jusqu'à quand? À partir de quand est-ce que je vais arrêter d'avoir ce comportement qui, je le sais, est nocif pour la planète?
Alors, il y en a un qui a un comportement dans sa petite maison en Bretagne, c'est Yves Cochet, ex-député européen des Verts, toujours calfeutré. Pour se préparer à l'effondrement du monde, il a des solutions et même des prévisions très étonnantes. On l'écoute.
Le mode de transport du futur en 2040, c'est pas les bagnoles, c'est pas les avions, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura plus de bagnoles, il y aura peut-être quelques bagnoles au gazogène, au biogaz, quelques milliers, mais c'est le cheval. On dit, mais bon, si tout s'effondre, avec qui je vais vivre? Eh bien, c'est pas avec votre groupe Facebook où il y a des Québécois et des Chinois, hein, parce que ça sera fini, il n'y aura plus d'Internet en 2035. C'est avec vos voisins géographiques. Évidemment, ils peuvent être du Rassemblement National, ou de gauche ou de droite, peu importe. C'est avec eux que vous allez vivre. C'est une leçon d'ouverture et de générosité. S'entraider ou s'entretuer, ça se prépare.
Alors bien sûr, on avait invité Yves Cochet, mais qui n'a pas voulu venir.
Non, parce qu'il ne s'était pas tenu qu'en calèche. Médiatique.
Voilà, exactement. Laurent Alexandre, comment vous regardez, comment vous entendez ces propos? Il nous annonce d'ailleurs en 2035 la fin d'Internet.
Hein. Moi, je considère que Cochet est dangereux. Parce que, à force d'expliquer aux gamins que la fin du monde est pour demain matin, il va finir par les paniquer. S'il y a des gamins qui se flinguent, on sera bien avancé. C'est-à-dire que Cochet a, de façon extrêmement claire et à plusieurs reprises, expliqué qu'il ne va rester que 200 à 300 millions de terriens. Nous sommes presque
en
2 milliards.
Ce qui est demain,
ça veut donc dire qu'il va y avoir 7 milliards et demi de morts dans les années qui viennent. Vous vous rendez compte? 7 milliards et demi de morts. Tenir ce discours-là est un discours catastrophique pour la jeunesse, un discours démoralisant. Je considère que Cochet est un danger public et qu'il ne faut pas que les jeunes l'écoutent parce qu'ils vont être démoralisés alors qu'il faut se battre pour rendre le monde meilleur. On est en train de les convaincre qu'il n'y aura pas de futur parce que nous allons tous mourir.
Christophe Rameau.
Oui, pour revenir un tout petit peu sur la question d'écocide, attention, si je puis me permettre, je ne suis pas juriste, mais attention au révisionnisme sur le génocide, j'espère. J'espère qu'on prend bien ça en compte, voyez
oui,
ce que je veux dire.
Absolument.
Très bien. Très bien.
C'est un compliment.
Maintenant, sur la question de si vous voulez, il n'y a pas d'un côté, contrairement à ce que disait Geneviève Azam au début de l'émission, des économistes et puis ceux qui ne le sont pas. Chez les économistes, moi je fais partie des économistes qui ne sont non libérales. Et donc c'est un combat rude, légitime, normal, ça fait partie du débat entre des économistes qui prônent plutôt les solutions marchandes, capitalistes, et des économistes qui prônent plutôt l'intervention publique dont je fais partie. Et le problème de tous ces, de cette frange écologiste, collapsologue, etc., c'est que tous les débats de politique économique, sur quelle politique économique on met en œuvre, quelle politique de... Eh bien, tout ça passe à la trappe. D'ailleurs, on se recentre sur les solutions locales. Il y a le tout petit local, les petites communautés, et puis le mondial, l'altermondialisme. Et entre les deux, comme par hasard, il y a un échelon qui disparaît, qui est l'échelon de l'État. C'est l'échelon de l'État parce que c'est dans cette partie-là de la contestation qui est ridiculement faible, en fait, hein. Ça concerne, vous voyez ce que je veux dire? Ça concerne généralement, ça fait 10% chez les bacs plus 5. Mais, en fait, on n'aime pas l'État, on n'aime pas la nation, d'accord? Ce qu'on amène, on associe ça tout de suite au nationalisme. Et donc, comme économiste hétérodoxe, je vous assure que ces courants-là, ça ne nous sert pas dans notre combat contre les libéraux économiques. Parce que, ben voilà, ça met tous ces débats sur les alternatives de politique économique à la trappe.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Merci à vous tous. Je vous propose de rester encore avec nous, car c'est la nouveauté de la saison. Bravo. Mais on va finir en musique.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Alors, ils sont aussi nombreux que nos invités autour de la table, mais ils sont derrière leur micro. Il y en a qui sont cachés parce que j'en vois que quatre.
Il n'y en a que quatre,
autant que nos invités. Voilà, Marion Guilbeault, on finit en live.
On va finir avec le premier live de la saison, hein, avec une artiste qui peut redonner foi en l'avenir de l'humanité, peut-être, enfin en tout cas dans la voix humaine, vous allez voir. Elle s'appelle Alani, elle est londonienne d'origine caribéenne, ses parents viennent de l'île de la Grenade. C'est pas tout à fait une inconnue sur l'antenne de France Inter. Il y a 4 ans, on avait déjà succombé à cette première chanson.
And suddenly I feel the worst. Have we been doomed to die? Oh, and suddenly have I been cursed to live a lawless life?
Suddenly, c'était en 2015, c'était une chanson qui nous avait plongé dans un autre temps, celui du Broadway des années 40, des comédies musicales. Mais Le talent d'Alanis, c'est d'emmener ses chansons au-delà de la nostalgie, au-delà du sepia, grâce à cette voix si particulière, totalement à contre-courant des vocalistes sucrés du R&B. C'est une voix qu'elle a travaillée dans l'ombre des chœurs, parce qu'elle a assuré longtemps des chœurs pour Andrea Bocelli, pour Mary G. Blige, pour encore Blur, Damon Albarn. Alors cette voix, c'est son atout. Alanis, elle surfe avec cette 4 octaves sur toutes les musiques et elle invente la sienne entre gospel contemporain et l'épure d'un jazz 3.0. Elle a déjà sorti 4 EP, un premier album en 2016 et voici venir le temps de Aka. Aka, c'est très bien nommé parce que c'est un disque qu'elle a entièrement conçu et largement réalisé a cappella, avec parfois juste une basse et un beatboxer pour souligner ce timbre qui nous fait passer du noir et blanc à la couleur. Sur Aka, il y a 2 autres voix qui lui donnent la réplique, celle du rappeur Lakis Stanfield et celle d'un crooner du punk, un grand fan lui aussi de la demoiselle.
On m'appelle Excellence, on loue mon élégance, je reçois les présidents, les monstres, les marchands, les tyrans, ou les démocrates, professionnels, diplomates.
C'est Iggy Pop ?
Mais bravo Laurent, c'est la voix d'Iggy Pop sur Le Diplomate, hein. Un titre français-anglais, mais français dans le texte, là, Iggy Pop, une chanson qu'Alanis et Iggy Pop ont enregistrée ensemble à Miami, car Alanis a beaucoup voyagé dans sa tête sur la planète pour écrire et enregistrer ce disque. C'est une véritable odyssée, Los Angeles, la Sardaigne, Londres, Barcelone, son empreinte carbone, une plage du Mexique, le Pays de Galles, mais enfin bref, c'est comme ça, peine de cœur, fou rire, rencontre, souvenir, tout ça, ça vibre dans Aka. Et Alanis, de quoi est-il question dans la chanson que vous allez jouer maintenant?
Hello. Well, the song. I wrote the song over 10 years ago.
Elle a écrit cette chanson il y a 10 ans.
It's about a broken heart.
Ça parle de cœur brisé, une peine d'amour.
Repaired. But today I'd like to sing it for somebody called Noah and his smile.
Aujourd'hui, elle le dédie à Noah et son sourire. Nos invités ont mis les casques, ont réglé les potards, mais c'est parti, c'est à vous, Alanis.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay to me, your words they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys, all you told me really was a lie. It hurt me, darling, you hurt me, hurt me. Shalalam won't help the baby, shalalam's in the lonely baby, shalalam, it's all for empty with you. Shalala won't help
Merci.
Chalala, Alani avec ses musiciens. Xavier Oyar-Cabal à la beatbox, Alice Lemoigne à l'accordéon, Valentin Mussou au violoncelle, c'est un extrait de Aka, c'est son nouvel album, ça sort vendredi prochain chez Sony. Elle sera en concert Jazz à la Villette à Paris le 6 septembre, à la Fiesta du Sud à Marseille c'est le 12 octobre et quelques autres dates avant la fin de l'année. Prise de son, Fabrice Desmas et Julien Dumont, merci messieurs.
Merci à nos invités, merci Christophe Rameau, Sarachi, je rappelle le roman Les Enténébrés, c'est au Seuil, Geneviève Azam, Lettre à la Terre et La Terre répond, ça sort le 5 septembre, toujours au Seuil, et Laurent Alexandre, on peut vous lire notamment dans Le Monde, L'Express et Huffington Post. C'était le NRV première partie. On va se retrouver après le journal dans 15 minutes pour plus de France Inter avec une semaine consacrée à Toni Morrison. Demain au programme du NRV, ce sera ça.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Mafia, une autre cause pour la pieuvre. En live, Marion.
On a rendez-vous avec la pop orientale de Mauvais Oeil.
Le NRV cette année, c'est Marion Lelay à la réalisation. La programmation préparation, c'est Virginie Rouzic. On reste en lien. À tout de suite.
Rendez-vous.